Aristote, Morale à Nicomaque, livre 4, Analyse de différentes vertus. Chapitre 1er. Sommaire. De la libéralité. Définition de la libéralité. La prodigalité. L'avarice. Caractères généraux de la libéralité. Vertus accessoires qu'elle suppose. La libéralité doit se mesurer à la fortune de celui qui donne. Le libéral ne ressent pas trop vivement les pertes d'argent. Il est facile en affaires. La prodigalité est beaucoup moins blâmable que l'avarice, bien qu'elle ait quelquefois les mêmes effets. L'avarice est incurable, nuance diverse de l'avarice. Paragraphe 1. Après l'intempérance, parlons de la libéralité. Elle est, on peut dire, le sage milieu dans tout ce qui regarde la richesse. Quand on loue quelqu'un d'être libéral et généreux, ce n'est point pour ses hauts faits à la guerre, ni pour les actes qu'on admire dans le sage, ni pour son équité dans les jugements. Mais c'est pour la manière dont il donne et reçoit les richesses, et surtout dans la manière dont il les donne. Paragraphe 2. Nous appelons richesse tout ce dont la valeur se mesure par la monnaie et l'argent. Paragraphe 3. La prodigalité et l'avarice, ou illibéralité, sont les excès et les défauts en ce qui concerne les richesses. On applique toujours l'idée d'avarice à ceux qui attachent plus d'importance qu'il ne faut au bien de la fortune. Mais parfois, l'on mêle l'idée de prodigalité avec celle d'intempérance à laquelle on la transporte. Car nous appelons aussi prodigues les gens qui, ne sachant pas se dominer, dépensent follement pour satisfaire leur intempérance. Paragraphe 4. Ces gens-là nous semblent les plus vicieux, parce qu'en effet, ils réunissent plusieurs vices à la fois. Mais cependant, le nom de prodigue qu'on leur donne n'est pas celui qui proprement leur convient. Paragraphe 5. Le prodigue véritable n'a qu'un vice tout spécial, celui de dissiper sa fortune. Le prodigue, comme l'indique l'étymologie même dans la langue grecque, est celui qui se ruine de son plein gré. La dissipation insensée de son propre bien est une sorte de destruction de soi-même, puisqu'on ne peut vivre que de ce qu'on a. C'est là le sens vrai dans lequel il faut entendre le mot de prodigalité. Paragraphe 6. Mais toutes les choses dont l'homme tire un emploi quelconque peuvent recevoir un bon ou un mauvais emploi. Et la richesse est une de ces choses qu'on peut employer. Or, on se sert le mieux possible d'une chose quand on a la vertu spéciale à cette chose. Et celui qui a la vertu relative aux richesses se servira le mieux aussi de la fortune. Celui-là est précisément l'homme généreux et libéral. Paragraphe 7. L'usage des richesses ne peut être, à ce qu'il semble, qu'une dépense ou un don. Recevoir et conserver, c'est plutôt la possession que l'usage. Ainsi, le propre de la libéralité, c'est plutôt de donner quand il faut que de recevoir quand il le faut, et de ne pas recevoir quand il ne faut pas. La vertu consiste beaucoup plus à faire du bien qu'à en recevoir soi-même, beaucoup plus à faire de belles choses qu'à ne pas en faire de honteuses. Paragraphe 8. Or, qui ne voit que dans l'acte de donner se réunissent nécessairement ces deux conditions, et de faire du bien et de faire une belle chose? Qui ne voit que dans le fait d'accepter on se borne à recevoir un bienfait ou à ne faire qu'une chose qui n'est pas honteuse. qui ne voit que la reconnaissance s'adresse à celui qui donne et non point à celui qui ne reçoit pas, et que la louange est bien plus encore réservée pour le premier. Paragraphe 9. D'autre part, il est plus facile de ne pas recevoir que de donner, parce qu'on est moins porté en général à se priver de ce qu'on a qu'à refuser le bienfait d'un autre. Paragraphe 10. Les hommes qu'on peut justement appeler généreux sont donc ceux qui donnent. Ceux qui n'acceptent pas ce qui leur est offert ne sont pas loués pour leur libéralité, bien qu'on puisse encore les louer de leur justice. Paragraphe 11. Ceux qui reçoivent les dons qu'on leur fait ne méritent absolument aucune louange. La libéralité est peut-être de toutes les vertus celle qui se fait le plus aimer, parce que ceux qui la possèdent sont utiles à leurs semblables, et qu'on l'est surtout en donnant. Paragraphe 12. Mais toutes les actions que la vertu inspire sont belles, et toutes elles sont faites en vue du bien et du beau. Ainsi, l'homme libéral et généreux donnera parce qu'il est beau de donner, et il donnera convenablement, c'est-à-dire à ceux à qui il faut donner, autant qu'il faut, quand il faut, et avec toutes les autres conditions qui constituent un don bien fait. Paragraphe 13. J'ajoute qu'il fera ses dons avec plaisir, ou du moins sans aucune peine, car tout acte qui est conforme à la vertu est agréable, ou du moins il est exempt de peine et ne peut jamais être positivement pénible. Paragraphe 14. Quand on donne à qui l'on ne doit pas donner, ou quand on ne donne pas parce qu'il est beau de donner, et qu'on fait un don par tout autre motif, on n'est pas réellement généreux, et l'on doit être appelé d'un autre nom, quel qu'il soit. Celui qui donne avec un sentiment de peine n'est pas généreux davantage, car s'il l'osait, il préférerait son argent à la belle action qu'il fait. Et ce n'est pas là le sentiment d'un homme vraiment libéral. Paragraphe 15. Il ne recevra pas non plus de qui il ne doit pas recevoir, car accepter un don à ces conditions douteuses n'est pas le fait de quelqu'un qui n'estime pas beaucoup la richesse. Paragraphe 16. S'il ne reçoit point, il ne demandera pas non plus, car il n'est pas d'un homme qui sait faire du bien aux autres, de se laisser si facilement obliger lui-même. Paragraphe 17. Il ne prendra de l'argent que là où il faut en prendre, c'est-à-dire sur ses propres biens. Non qu'à ses yeux, il y ait en ceci rien de très beau, mais uniquement parce que c'est chose absolument nécessaire pour avoir la possibilité de donner. Aussi, ne négligera-t-il pas sa fortune personnelle, puisque c'est là qu'il doit trouver le moyen d'aider les autres dans l'occasion. Il ne la prodiguera pas non plus au premier venu, afin d'avoir à donner à qui il faut, quand il faut, et tout ce qu'il faut pour satisfaire à l'honneur. Paragraphe 18. Il est aussi très digne d'un cœur libéral de donner beaucoup, et même à l'excès, de façon à ne garder que la moindre part pour soi-même. C'est bien le fait d'une âme généreuse de ne pas regarder à soi. Paragraphe 19. Du reste, la libéralité doit s'apprécier toujours selon la fortune. La vraie libéralité consiste non pas dans la valeur de ce qui est donné, mais dans la position de celui qui donne. Elle offre ses dons suivant sa richesse, et rien ne s'oppose à ce que celui qui donne moins soit en réalité plus généreux s'il prélève ses dons sur une moindre fortune. Paragraphe 20. On se montre en général plus généreux quand on n'a point acquis sa fortune soi-même et qu'on l'a reçue des autres par héritage, car alors on n'a jamais connu le besoin et chacun tient toujours bien davantage à ce qu'il a produit lui-même, comme on le voit assez par l'exemple des parents et des poètes. L'homme libéral a d'ailleurs grand-peine à s'enrichir, parce qu'il n'est porté ni à recevoir ni à garder, et que loin de là, il est enclin à faire part de ce qu'il a, et que, n'estimant pas les richesses en elles-mêmes, il ne les apprécie qu'autant qu'elles lui permettent de donner. Paragraphe 21. Voilà ce qui explique ces reproches si souvent adressés à la fortune d'enrichir le moins ceux qui seraient les plus dignes d'être riches. Mais l'on voit à ceci une assez bonne raison. C'est qu'il en est de l'argent comme de tout le reste. Il n'est pas possible d'en avoir quand on ne se donne aucune peine pour s'en procurer. Paragraphe 22. Toutefois, l'homme libéral ne donne point à qui il ne doit pas donner, ni dans les occasions où il ne serait pas convenable d'offrir un don. Il ne manque à aucune des convenances que nous avons indiquées, car alors il ne ferait plus un acte de libéralité, et s'il dépensait aussi mal son argent, il n'en aurait plus à dépenser dans les circonstances où il serait convenable de le faire. Paragraphe 23. Je le répète, on est vraiment libéral qu'à la condition de dépenser selon son bien et comme il convient. Celui qui va au-delà de ce qu'il peut est un prodigue. Et ceci explique comment on ne peut pas dire des tyrans qu'ils soient prodigues. C'est que leurs richesses sont en général si énormes qu'il leur est difficile, ce qu'il semble, de les épuiser malgré toutes les profusions et les folles dépenses qu'ils peuvent faire. Paragraphe 24. Ainsi, la libéralité étant un sage milieu dans tout ce qui touche aux richesses, qu'on les donne ou qu'on les reçoive, le libéral ne donnera et ne recevra que quand il faut et qu'autant qu'il faut, dans les petites choses aussi bien que dans les grandes. Et j'ajoute que ce sera toujours avec plaisir. D'autre part, il recevra quand il faut recevoir et autant qu'il faut recevoir. C'est que la vertu qui le distingue, étant un milieu relativement à ces deux actes de donner et de recevoir, tout différents qu'ils sont, il se montrera dans l'un comme dans l'autre tout ce qu'il doit être. Quand on sait bien donner, c'est une conséquence toute naturelle qu'on sache également recevoir bien. S'il en était autrement, recevoir serait ici un contraire de donner et non pas une conséquence. Mais les qualités qui se suivent peuvent se trouver à la fois dans le même individu, tandis que les contraires, évidemment, ne peuvent jamais être dans ce cas. Paragraphe 25. Quand il arrive à l'homme libéral de faire une dépense déplacée ou peu convenable, il en ressent de la tristesse. Mais c'est avec modération et comme il convient, puisque c'est le propre de la vertu de ne s'affliger et de se réjouir que pour ce qui le mérite, et dans une juste mesure. Paragraphe 26. Le libéral aussi est très facile en affaires. Il se laisse même assez aisément léser, précisément parce qu'il fait peu cas de l'argent, et qu'il serait bien plus peiné de n'avoir pas fait la dépense qu'il devait faire que d'avoir fait une dépense inutile. En ceci, il n'est pas du tout de l'avis de Simonide. Le prodigue, sur tous ces points, n'est pas non plus exempt d'erreur. Il ne sait ni se réjouir ni s'affliger de ce qu'il faut et comme il faut. Du reste, la suite nous montrera encore mieux tout ceci. Paragraphe 27. Nous avons établi plus haut qu'en fait de libéralité, l'excès et le défaut sont la prodigalité et l'avarice, et qu'elles se produisent à deux égards, donner et recevoir. Nous confondons d'ailleurs dépenser et donner. La prodigalité est donc en excès pour donner et ne recevoir point. Elle est en défaut pour recevoir. L'avarice, au contraire, est en défaut pour donner et en excès pour prendre, toujours, bien entendu, dans les très petites choses. Paragraphe 28. Ainsi, les deux conditions de la prodigalité ne peuvent pas aller de pair bien longtemps, car il n'est pas facile de donner à tout le monde quand on ne reçoit de personne, et la fortune manque bien vite aux simples particuliers quand ils veulent donner avec cette profusion qui caractérise à bon droit ceux qu'on appelle des prodigues. Paragraphe 29. Du reste, ce vice doit paraître beaucoup moins blâmable que celui de l'avarice. L'âge, la détresse même, peuvent assez aisément corriger le prodigue et le ramener au juste milieu. Il a des qualités du libéral qui donne et ne reçoit pas, sans savoir d'ailleurs les exercer l'une et l'autre quand il faut, ni convenablement. Mais il lui suffirait de contracter des habitudes raisonnables ou de se modifier par toute autre cause pour devenir un homme libéral. Il donnerait alors quand il faut donner et ne recevrait pas quand il ne faut pas recevoir. Ainsi donc, la nature du prodigue au fond n'est pas mauvaise. Il n'y a rien de vicieux ni de bas dans ce penchant excessif à donner beaucoup et à ne rien prendre. Ce n'est qu'une folie. Paragraphe 30. Ce qui fait que le prodigue doit paraître fort au-dessus de l'avare, indépendamment des motifs que je viens de dire, c'est que l'un oblige une foule de gens et que l'autre n'oblige personne, pas même lui. Paragraphe 31. Il est vrai que la plupart des prodigues, comme je l'ai déjà fait observer, reçoivent aussi quand ils ne devraient pas recevoir, et quand cela, ils se montrent bien peu libéraux. Ils deviennent avides et prennent de toutes mains, parce qu'ils veulent toujours dépenser et qu'ils sont bientôt hors d'état de dépenser tout à leur aise. Leurs propres ressources, ne tardant pas à s'épuiser, il faut s'en procurer d'étrangères. Et comme ils ne songent guère à leur dignité ni à l'honneur, ils prennent à la légère et de toute façon. Ce qu'ils désirent, c'est de donner. Comment le peuvent-ils? D'où le peuvent-ils? C'est là ce qui leur importe le moins. Paragraphe 32. Voilà aussi pourquoi leurs dons même ne sont pas vraiment libéraux. Ils ne sont pas honorables parce qu'ils ne sont pas inspirés par le sentiment du bien et qu'ils ne sont pas faits comme ils devraient l'être. Parfois, ils enrichissent des gens qu'il faudrait laisser dans la pauvreté, et ils ne feraient rien pour des gens de la conduite la plus respectable. Ils donnent à pleine main à des flatteurs ou à des gens qui leur procurent des plaisirs aussi peu relevés que ceux de la flatterie. C'est là ce qui fait aussi que la plupart des prodigues sont intempérants. Dissipant leur argent avec tant de facilité, ils le dépensent tout aussi aisément pour leurs excès. Et ils se laissent aller à tous les désordres des plaisirs, parce qu'ils ne vivent pas pour la vertu ni pour le devoir. Paragraphe 33. Le prodigue, d'ailleurs, répétons-le, se jette dans ses excès parce qu'il a été abandonné sans direction et sans maître. Si l'on se fût occupé de lui avec quelque soin, il aurait pu revenir au juste milieu et au bien. Paragraphe 34. Loin de là, l'avarice est incurable. C'est la vieillesse à ce qu'il semble et la faiblesse sous toutes les formes qui font les avares. L'avarice est, du reste, plus naturelle à l'homme que la prodigalité, car pour la plupart, nous aimons en garder notre bien plutôt qu'à le donner. Paragraphe 35. Ce vice peut prendre une intensité extrême et revêtir les apparences les plus diverses. Ce qui fait qu'il y a tant de nuances dans l'avarice, c'est que, comme elle consiste en deux éléments principaux, défaut à donner, excès à recevoir, elle n'est pas dans tous les individus également complète. Parfois elle se divise, les uns montrant davantage de l'excès à recevoir, et les autres du défaut à donner. Paragraphe 36. Ainsi, tous les gens qu'on flétrit par ces dénominations de chiche, rogneux, pingre, pêchent tous par défaut à donner. Mais cependant, ils ne désirent point ni ne voudraient prendre le bien d'autrui. Chez quelques-uns, c'est une sorte d'honnêteté et de prudence qui recule devant la honte, car il y a des gens qui paraissent, ou qui du moins prétendent, ne montrer cette parcimonie que pour n'être jamais réduits à faire quelque bassesse. C'est dans cette classe qu'il faut ranger le ladre et tous ceux qui, comme lui, prêts à couper un cheveu en quatre, méritent ce nom, parce qu'ils portent à l'excès le soin de ne jamais rien donner à personne. Les autres ne s'abstiennent de rien recevoir d'autrui que par un sentiment de peur, parce qu'il n'est pas facile en effet de recevoir soi-même des autres et de ne jamais leur donner une partie de ce qu'on a. Alors, ils préfèrent ne rien recevoir et ne rien donner. Paragraphe 37. D'autres avares, au contraire, se signalent par un excès à recevoir de toutes mains et à prendre tout ce qu'ils peuvent. Par exemple, tous ceux qui se livrent à d'ignobles spéculations, les entreteneurs de mauvais lieux et tous les gens de cette espèce, les usuriers et tous ceux qui prêtent les plus petites sommes à gros intérêts. Tous ces gens-là prennent là où il ne faut pas prendre et plus qu'il ne faut prendre. Paragraphe 38. L'avidité pour les lucres les plus honteux paraît être le vice commun de tous ces cœurs dégradés. Il n'y a point d'infamie qu'ils n'endurent, pourvu qu'ils en recueillent un profit. Et encore, est-ce toujours pour un bien mince profit? Car on aurait tort d'appeler avares ceux qui font des profits immenses là où ils ne devraient pas en faire et qui s'approprient ce qu'ils ne devraient pas prendre. Les tyrans, par exemple, qui pillent des cités et dépouillent les temples qu'ils violent. Il faut plutôt les appeler des coquins, des impies, des scélérats. Paragraphe 39. Il faut ranger encore parmi les avares le joueur, le brigand, le bandit. Ils ne recherchent que des gains honteux, et c'est par un amour effréné du lucre que les uns et les autres agissent et qu'ils bravent l'infamie. Ceux-ci, affrontant les plus affreux dangers, pour ravir le butin qu'ils convoitent, ceux-là s'enrichissant bassement aux dépens de leurs amis, à qui bien plus tôt ils devraient faire des dons. Ces deux sortes de gens, faisant sciemment des gains là où ils ne devraient pas en faire, sont des cœurs sordides, et toutes ces façons de se procurer de l'argent ne sont que des formes de l'avarice. Paragraphe 40. C'est du reste avec toute raison qu'on oppose l'illibéralité ou avarice à la libéralité, comme son contraire. Car, encore une fois, l'avarice est un vice plus blâmable que la prodigalité, et elle fait commettre plus de fautes aux hommes que la prodigalité, telle que je l'ai décrite. Paragraphe 41. Voilà ce que nous avions à dire sur la libéralité et sur les vices qui y sont opposés. Chapitre 2. Sommaire. De la magnificence. Sa définition, sa différence avec la libéralité. Défauts et excès relatifs à la magnificence. Qualité du magnifique. Ses desseins, sa manière de faire les choses. Dépenses où s'exerce plus spécialement la magnificence. Dépenses publiques, dépenses privées. Excès de magnificence. Faste grossier et sans goût. Défaut de magnificence, la mesquinerie. Paragraphe 1. Une suite naturelle de ce qui précède c'est de traiter de la magnificence. Cette vertu est évidemment aussi l'une de celles qui sont relatives à l'emploi des richesses. Seulement, elle ne s'étend pas, comme la libéralité, à tous les actes sans exception qui concernent les richesses. Elle ne s'applique qu'à ceux où la dépense est considérable. Dans ces cas exceptionnels, elle surpasse la libéralité en grandeur, car, comme son nom même le fait entendre, c'est une dépense faite convenablement dans de grandes occasions. Paragraphe 2. Du reste, l'idée de grandeur est toujours relative, et la dépense n'est pas la même, par exemple, pour celui qui équipe des galères et pour celui qui dirige une simple théorie. Quant à la convenance, elle se rapporte tout à la fois à l'individu, à l'objet et aux moyens. Paragraphe 3. Celui qui, dans de petites choses ou dans des choses médiocres, dépense comme il convient à sa dignité, ne mérite pas pour cela le nom de magnifique. Pas plus que celui qui peut dire, comme le poète, « J'ai pris souvent pitié de la misère errante. » Le magnifique est celui qui s'est dépensé convenablement pour les grandes choses. Il est libéral aussi, mais le libéral n'est pas nécessairement magnifique. Paragraphe 4. Relativement à cette disposition, le défaut se nomme petitesse et mesquinerie. L'excès se nomme faste grossier, somptuosité sans goût. Et des critiques de ce genre peuvent s'appliquer à toutes ces dépenses, non parce qu'elles sont excessives dans les choses où il faut qu'elles le soient, mais parce qu'on les fait pour briller dans des occasions et d'une manière qu'il faudrait au contraire éviter. Du reste, nous reparlerons plus loin de ces détails. Paragraphe 5. Le magnifique est, on peut dire, un homme de réflexion et de sagesse, puisqu'il est capable de voir ce qui convient dans chaque occasion et de faire de grandes dépenses avec toute la mesure nécessaire. Paragraphe 6. Ainsi que nous l'avons dit au début, une qualité se détermine par les actes qu'elle produit et par les choses auxquelles elle s'applique. Les dépenses du magnifique sont tout à la fois grandes et convenables, et les résultats qu'il poursuit doivent être également l'un et l'autre, car c'est ainsi que la dépense sera non seulement considérable, mais qu'elle s'accordera avec le but qu'on se propose. L'œuvre doit être digne de la dépense, et la dépense doit être digne de l'œuvre, et peut-être même la surpasser. Paragraphe 7. C'est donc uniquement en vue du bien et du beau que le magnifique fera ses grandes dépenses, car cette préoccupation du bien est le caractère commun de toutes les vertus. J'ajoute qu'il est fait avec plaisir et avec une noble facilité, car regarder de trop près aux choses est en général un signe de petitesse, et le magnifique vise à les faire le mieux et le plus convenablement possible, plutôt qu'il ne s'enquiert du prix qu'elles coûtent et des réductions qu'il serait possible d'obtenir. Paragraphe 8. Je le répète, il faut nécessairement aussi que le magnifique soit libéral, car l'homme vraiment libéral sait dépenser quand il faut et ce qu'il faut. Mais dans ces occasions, le grand est le propre du magnifique. Car on pourrait dire, la grandeur de la libéralité qui s'exerce dans les mêmes conditions, mais avec une dépense égale, le magnifique saura faire quelque chose de plus noble et de plus grand. La valeur de la matière qu'on emploie et celle de l'œuvre qu'on en tire ne sont pas du tout identiques. Ainsi, la matière peut être la plus précieuse et la plus chère de toutes, de l'or par exemple. Mais le mérite de l'œuvre, c'est sa grandeur, c'est sa beauté, parce que la contemplation des qualités qui la distinguent nous cause de l'admiration. Par ces motifs, la magnificence est admirable et le mérite de l'œuvre consiste dans une magnificence largement développée. Paragraphe 9. Parmi les grandes dépenses, il en est quelques-unes que nous tenons plus particulièrement pour honorables. Ce sont, par exemple, les offrandes solennelles que l'on consacre aux dieux, les constructions pieuses, les sacrifices. Nous avons dans la même estime toutes les dépenses qui se rapportent au culte de la divinité et toutes celles qu'entreprennent, dans la noble ambition de servir le public, de simples particuliers qui croient quelquefois devoir employer leur fortune à la splendeur des jeux scéniques ou à l'équipement des galères de l'État ou aux frais des fêtes populaires. Paragraphe 10. Mais toujours, ainsi que je l'ai déjà dit, on doit considérer dans celui qui fait ses grandes dépenses qui il est et quelle est sa fortune pour se permettre de les faire. Il faut qu'à tous ses égards, il y ait une entière convenance, et elle doit se trouver non pas seulement de la dépense à l'œuvre qui est faite, mais encore dans celui qui l'a fait. Paragraphe 11. Ainsi, le pauvre ne peut jamais être magnifique, car il n'a pas les ressources qui permettent de faire ses larges et convenables dépenses, et s'il les essayait, il serait insensé. Pour lui, ce serait agir contre la véritable convenance et contre le devoir, tandis qu'il faut respecter l'un et l'autre pour agir selon la vertu. Paragraphe 12. Ces dépenses splendides ne conviennent donc qu'à ceux qui, dès longtemps, jouissent d'une grande fortune, acquise soit par eux-mêmes, soit par leurs ancêtres, ou par une communauté dont ils font partie. Elles conviennent aux gens de haute naissance, aux personnages couverts de gloire, en un mot, à tous ceux qui ont de ces positions où se trouvent réunies la grandeur et la dignité. Paragraphe 13. Tel est donc le caractère principal du magnifique, et c'est, je le répète, dans des dépenses de ce genre que consiste en général la magnificence. Ce sont à la fois les plus considérables et celles qui font le plus d'honneur. Parmi les dépenses privées, on peut ranger dans la même classe, à peu près, celles qui n'ont lieu qu'une seule fois dans la vie, par exemple les noces ou les occasions analogues, ou même encore celles dont une cité entière se préoccupe ou dont se préoccupent les dignitaires qui la gouvernent. Par exemple, la réception ou le départ d'illustres étrangers, les présents qu'on fait ou qu'on reçoit dans ces grandes circonstances. Car le magnifique ne fait pas ces énormes dépenses pour lui-même. Il ne les fait jamais que pour le public. Et les dons de cet ordre ont quelques ressemblances avec les offrandes saintes qu'on fait aux dieux. Paragraphe 14. Le magnifique sait aussi se faire construire une habitation qui réponde à sa fortune, car c'est là encore un luxe fort bien placé. S'il convient de beaucoup dépenser, c'est surtout pour les choses qui doivent avoir de la durée, puisque ce sont les plus belles. Paragraphe 15. Dans chacune, d'ailleurs, il faut toujours observer la convenance, car les mêmes choses ne conviennent pas, et pour les dieux et pour les hommes, dans un temple ou sur un tombeau. Chacune des dépenses qu'on fait peut être grande en son genre, et la plus magnifique est celle qui est grande dans le grand. Par exemple, ici, c'est le grand dans cet ordre de dépenses dont nous parlons. Paragraphe 16. Mais le grand dans l'objet diffère du grand dans la dépense elle-même. Et ainsi, dans un cadeau d'enfant, le plus beau ballon, la plus belle timbale peuvent avoir toute la magnificence possible, et le prix qu'on y met peut n'être rien et n'exiger aucune libéralité. Paragraphe 17. Voilà pourquoi le propre du magnifique, c'est de toujours faire grandement les choses dans le genre où il les fait. C'est là un avantage qu'on ne peut pas aisément surpasser et qui est toujours en proportion avec la valeur même de la dépense. Paragraphe 18. Tel est donc le magnifique. Mais l'homme sans goût, qui pêche ici par excès, est le fastueux, qui dépense sans borne et contre toute convenance, comme je l'ai dit antérieurement. Il dissipe énormément d'argent dans les petites dépenses et il cherche à briller sans le moindre goût. S'il reçoit des gens qui fournissent leur écho, il les traitera comme pour une noce. Ou dans les comédies qu'il monte, il fera mettre des tapis de pourpre pour les acteurs à l'entrée de la scène, comme font les mégariens. Et encore, il commettra toutes ses folies, non pas tant par amour pour le beau que pour faire étalage de sa fortune et se faire admirer à ce qu'il imagine. En un mot, il dépense très peu là où il faudrait beaucoup dépenser et beaucoup là où il ne faudrait dépenser que très peu. Paragraphe 19. Quant à l'homme mesquin, il pêche par défaut à tous ses égards. Et après avoir dépensé énormément, il fera perdre aux choses, par une certaine petitesse, toute leur grandeur et toute leur beauté. Dans tout ce qu'il fait, il retarde sans cesse la dépense. Il cherche à dépenser le moins qu'il peut. Il plaint tout ce qu'il dépense, et il croit toujours faire beaucoup plus qu'il ne faut. Paragraphe 20. De telles dispositions morales sont certainement des vices, et cependant, elles ne suffisent pas à déshonorer un homme, parce qu'elles ne nuisent point à autrui et qu'elles ne sont pas absolument dégradantes.